Regarde,
j'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh. Ça c'est de l'œuf, je crois. Ah, c'est vas-y,
c'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable. Ah, je suis vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie.
Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Charlotte au micro et aujourd'hui nous accueillons Adeline. Depuis sa plus tendre enfance, Adeline est une grande passionnée de la faune sauvage africaine, si bien qu'un jour, elle quitte tout pour réaliser le rêve de sa vie, devenir guide safari en Afrique. Kenya, Ouganda, Afrique australe et j'en passe, plus rien ne retient cette amoureuse de l'aventure et du règne animal. Elle est parmi nous aujourd'hui pour nous raconter son histoire et sans plus attendre que je lui donne la parole. Bonjour Adeline, comment tu vas ?
Bonjour Charlotte, eh bien, ça va très bien, merci et toi ?
Oui, super. Je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast, découvrir ton univers qui, je pense, va faire rêver plus d'un. C'est pas tous les jours qu'on rencontre et qu'on discute avec un guide safari, une guide safari. Donc, du coup, je suis super excitée. Est-ce que j'ai envie qu'on aille deep dans le deep du sujet, guide safari. J'ai l'impression que c'est un petit peu le rêve de tous les gamins, tu sais. Quand t'as envie d'être vétérinaire, astronaute, guide safari, c'est un petit peu le métier que t'entends quand t'es gamin, que t'as envie de faire. Mais au final, quand t'es adulte, il n'y en a pas des masses au final que tu connais autour de toi. Donc, je suis super excitée que tu nous racontes déjà pourquoi t'as eu envie de faire guide safari. Qu'est-ce qui t'a arrivé, qu'est-ce qui t'a emmené à ce rêve ultime?
Alors écoute, de toute façon, la passion des animaux et de l'Afrique, j'ai l'impression d'être vraiment née avec. C'est-à-dire que moi, toute petite, déjà à 5 ans, je racontais à mes parents « Oh, cette nuit, je suis partie en Afrique, j'ai pris l'avion, etc. » C'était déjà dans mon imaginaire, mais vraiment toute gamine. Et puis, les choses se faisant, j'ai fait mes études dans le tourisme. Et en fait, c'est vraiment un voyage déterminant en Afrique du Sud. Un voyage de repérage, en fait, avec mon équipe, le tour opérateur pour lequel je travaillais. J'ai rencontré un guide local là-bas. Et il m'a raconté plein d'anecdotes. C'est la première fois que j'ai vu les léopards en plus, donc c'était vraiment un moment hyper marquant pour moi. On a suivi le léopard à la nuit tombée, etc. On l'a retrouvé sur notre véranda en plus, devant le lodge. Enfin, c'était exceptionnel. Et donc voilà, toutes les discussions que j'ai eues avec lui pendant toute la durée de ces quelques jours qu'on a partagés ensemble dans les réserves privées en Afrique. Je suis rentrée en France, j'ai dit bon, bah, c'est bon, je donne ma dem, je me casse, je vais faire mon école de guide. Il faut que je devienne guide et voilà.
Mais c'est ouf. Alors attends, tu as fait des études de tourisme juste parce que tu t'es dit ok, moi j'adore voyager, t'es quelqu'un d'aventurière, c'est pour ça que tu t'es lancée dans le tourisme et c'est comme ça que tu as trouvé... En fait, c'est... Raconte-moi un petit peu plus là-dessus de comment tu en es devenue à aller dans le tourisme et à finir en tour opérateur, etc. Quoi.
En fait, de base, le rêve, c'était d'être véto. Moi, je voulais être vétérinaire, évidemment. C'était mon rêve petit.
le rêve d'enfant.
Le rêve de gamine, c'était ça. Je voulais sauver les animaux. Voilà, j'étais née pour ça. Et puis, j'ai grandi, j'ai fait des études. C'était un peu compliqué, les études, parce que ça ne me passionnait pas. Il fallait être très bon en maths, etc. Donc, voilà, ouais. J'avais une deuxième passion, c'était les voyages. Donc, j'étais vraiment entre ça. Donc, je me suis dit, bon, fais tes études dans les voyages. Donc, j'ai fait une fac de langue. Après, j'ai fait mon BTS de tourisme. Et j'ai commencé à travailler en agence de voyage traditionnel, mais je me suis très, très vite ennuyée. Et donc, là...
Parce que tu créais des voyages pour des personnes, c'est ça ?
Non, en agence traditionnelle, justement, en fait, tu vends des trucs tout packagés, vraiment grand public. Donc, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Je me suis très vite ennuyée à vendre juste des billets d'avion, des billets de train, des locations de voitures et des voyages packagés au Club Med. Ce n'était pas mon truc. Ouais. Donc, le rêve s'était un petit peu essoufflé par rapport à ça. Donc là, j'ai cherché. Et là, j'ai trouvé une licence possiblement de faire après un bac plus 2. Et c'était dans le tourisme solidaire. Et au cours de cette licence, j'ai fait un stage dans un tour opérateur qui ne proposait que du safari. Et là, j'ai découvert, j'ai découvert l'univers, j'ai découvert mes mentors. Et de là, en fait, après le stage, ils ont voulu m'embaucher en CDI. Et moi, j'ai dit non, mais moi, je veux partir en Afrique. Et contre toute attente, ils m'ont aidée. Je suis partie une première fois au Kenya grâce à eux, travailler dans une agence locale. Et voilà, et là, la première rencontre avec l'Afrique, ça y est, c'était fini, j'avais pris le virus.
C'est ouf, c'est ouf. Et du coup, raconte-nous un petit peu cette première, euh, ce premier bain dans la vie africaine et
alors, c'était épique parce que je suis allée au Kenya et c'était l'année où il s'est passé des événements assez compliqués au Kenya. Il y a eu des élections présidentielles qui ne se sont pas très bien passées. Donc, il y a eu beaucoup d'émeutes. Donc, au bout de 2 mois, je devais rester 3 mois, voire plus. Moi, j'étais partie pour rester toute la vie, en vrai, hein, si on me demandait. Ouais. D'ailleurs, je ne suis pas partie tout de suite. Mais les émeutes ont fait qu'on n'a plus de clients du jour au lendemain parce que les médias s'en sont mêlés, que ça a été poussé à l'extrême par rapport aux véritables faits qui se sont passés sur place. Mais bref, j'ai vraiment dû partir la mort dans l'âme parce que moi, au dernier moment, jusqu'à ce qu'ils évacuent vraiment et qu'ils nous disent « Non, non, mais tout le monde rapatrié. » Mais moi, je ne voulais pas partir, quoi. On était assignés à résidence et tout, mais moi, je ne voulais pas partir. Donc, mais voilà, j'avais découvert la brousse, j'avais découvert l'Afrique, j'avais vu mes premiers animaux. Ça y est, c'était fini. De toute façon, la première anecdote que j'ai atterri à l'aéroport au Kenya. Je suis sortie et l'aéroport jouxte le parc national de Nairobi. Et là, j'ai vu ma première girafe. Et ça y est, c'était plié. Hein.
C'était bon. Ah, mais c'est ouf. C'est ouf parce que tu nous le racontes comme si c'était en fait un quotidien un peu commun en fait, alors que pas du tout. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait vécu tout ça. Attends, déjà on va revenir sur les émeutes parce que tu nous dis ça comme ça, mais enfin t'as pas eu peur, c'est méga dangereux en fait, non?
Bah ouais, c'était dangereux, hein. C'était dangereux. Il y avait des gens qui s'attrapaient un petit peu à la machette quand même dans les rues de Nairobi, mais non, j'ai pas eu peur et je voulais pas partir. Non, je suis même partie. J'ai eu la chance venue de nulle part. Il y a une dame qui me dit, mais moi j'ai 2 touristes américaines qui arrivent, j'ai personne pour les accueillir dans mon lodge au Masai Mara et tout. Et est-ce que tu veux pas y aller? Bah si, j'y vais. Donc en fait, je me suis improvisée manager de lodge du jour au lendemain. On m'a envoyée en avion au cœur du Masai Mara. Mais moi j'étais au paradis, quoi. Moi, dans les parcs, je risquais rien et. Bon, à Nairobi, je sortais pas trop dans les rues. Moi, mon but ultime, c'était à chaque fois de partir dans la brousse.
D'aller dans les savanes, ouais.
C'était ouais, d'être dans la brousse. Et là, je savais que je risquais rien, moi. Les animaux, j'ai jamais eu peur. Enfin, moi, je peux approcher. J'ai approché des hyènes ou des lions à pied de très proche. J'ai cette chance-là, et heureusement, en tant que naturaliste.
Mais c'est ouf, ouais, parce que tu nous disais, j'ai vu un léopard qui était à côté de notre tente, etc. Mais en fait, t'as jamais eu peur de l'animal sauvage. Limite, moins peur de l'animal sauvage que l'humain, quoi.
C'est ça. Limite, je me sens plus en sécurité en pleine brousse, tu vois, que dans une ville comme Paris ou une grande ville comme ça où il y a des gens de partout, où je me sens complètement pas du tout à ma place. Et les animaux sauvages, non, mais je pense tous les animaux. Parce que gamine, à 5 ans, j'avais des gros chiens. Ma grand-mère m'emmenait à la ferme et il y avait un gros barouche qui me sautait dessus. Moi, je rigolais, j'ai jamais eu peur.
C'est ouf, en fait, tu as eu cette connexion, un peu comme la famille de la jungle. Je ne sais pas si tu connais ce dessin animé, mais tu dois être la gamine qui peut parler aux animaux, quoi.
Ouais, mais j'ai fait ça, j'ai fait des stages en communication animale.
C'est ouf, ouais. C'est ouf. Et du coup, alors attends, donc tout ça, en fait, c'est arrivé un petit peu comme une boule de neige, quoi.
C'est ça.
C'est une histoire qui en enchaîne une autre et qui fait que tu t'es dit, OK, là… je suis en Afrique, je kiffe grave, j'ai l'impression que en fait je suis sur ma terre natale en fait. Enfin, c'est là où je suis destinée. Là, on est en train de se parler, mais tu es où là?
Non, là je suis en France, je suis dans le sud-ouest. Maintenant je vis plus en Afrique, je suis rentrée définitivement. Rien n'est jamais définitif dans ma vie. Mais je suis rentrée en 2018 et depuis je suis dans le sud-ouest.
Ok. Et du coup. Parle-nous en fait de cette vie, je sais que tu as vécu à peu près 3 ans en Afrique, si je me souviens bien, parce que j'ai quand même fait quelques petites recherches, pas trop, comme ça je laisse un petit peu la surprise au fil de cet épisode, mais c'est quoi la vie en Afrique en fait quand tu es guide safari? Est-ce que tu peux nous peindre un petit peu, là si on ferme les yeux, est-ce que tu peux nous décrire le pays qui t'a marqué, parce que je sais que t'as fait plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, le Kenya, comment t'as vécu là-bas, c'est comment, les rues, etc., la vie, tout ça, quoi.
Oui, la première chose qui m'a marquée au Kenya, c'est qu'il y avait des barbelés un peu partout. C'est-à-dire que les maisons sont entourées de barbelés, les parcs, les parcs évidemment, mais les centres commerciaux, etc. Donc, il y a quand même un problème de sécurité qui est notoire, qui est connu à Nairobi, parce que évidemment, se côtoient des belles maisons avec des expatriés, etc., ou des gens très riches kenyans avec des townships, donc en fait des quartiers beaucoup plus pauvres, et tout ça juste à côté. Donc, ça reste une ville qui est connue pour être dangereuse comme Johannesburg. Mais donc après, c'est vrai que nous, en tant que blancs dans un pays africain, c'est toujours un peu compliqué. On nous conseille de pas trop marcher tout seul. Il vaut mieux faire les trajets en voiture. Quand on a un taxi, il faut prendre toujours le même. Quand tu sors le soir, il faut mieux sortir en groupe. Voilà, il y a quand même une insécurité qui règne et qui, au bout du compte, est pesante quand même, que moi, j'ai ressenti comme pesante au bout de trois années.
C'est une insécurité humaine plus qu'animale, en fait. Parce qu'au début, tu m'as dit barbelé. Moi, je me suis dit, OK, il doit y avoir les léopards qui essayent de rentrer chez toi en pleine nuit. Mais non, en fait, c'est plus humaine, quoi.
Ouais, à ce niveau-là, comme je le dépeins, c'est totalement humain. Parce que je te dis, moi, de toute façon, les léopards, quoi qu'ils arrivent, ils vont où ils veulent. Hein, qu'il y ait des barbelés ou pas, les léopards, moi. Mais moi, quand la première fois que je suis allée au Kenya, on avait encore les lions qui sortaient des fois du parc de Nairobi, qui se retrouvaient sur les routes à Karen, qui est un quartier en fait un petit peu détaché de Nairobi, qui a été surnommé Karen parce que Karen Blixen, qui est une personne très connue au Kenya, qui avait une ferme là-bas, a écrit un bouquin, l'origine de Out of Africa. C'est l'histoire de Karen Blixen, voilà. Donc, on appelle ce quartier la Karen, et c'est le quartier le plus proche du parc de Nairobi. Et on avait encore à ce moment-là les lions, des fois, qui sortaient du parc, qui se retrouvaient au milieu des bagnoles, quoi, sur la route. C'était hallucinant.
C'est ouf. Mais quand tu dis parc, c'est du coup, j'imagine, un parc naturel. Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est public? Comment ça fonctionne, en fait, au Kenya, les safaris et les parcs?
Alors, les parcs et les réserves en Afrique de l'Est, de façon générale, tu peux y aller, il faut juste payer une entrée. Voilà, quand tu arrives, tu as une grille, tu dois payer une entrée. Alors, quand tu es résident ou kényan, tu vas avoir un tarif qui est moins important, évidemment, que quand tu es touriste. Mais tu peux venir avec une voiture, même pas forcément un 4x4, pour aller te balader dans le parc toi-même, conduire dans le parc et voir les animaux.
Ah ouais, toi-même, carrément.
Ah oui, moi, quand j'y vais là-bas, j'y allais très, très souvent avec mon petit 4x4 et j'allais passer mes week-ends dans le parc de Nairobi quand j'étais pas en safari et que j'étais au bureau, ouais.
Mais attends, mais toi, à l'époque, t'étais guide safari officiel, non? Pas encore.
Si, quand j'ai revécu après les 3 ans au Kenya, effectivement, j'avais déjà mon diplôme. Donc oui, je connais le comportement des animaux, je sais potentiellement quand est-ce que je peux rentrer dans leur zone de confort, je connais les signes, tout ça. Et quand on connaît pas, et ben voilà, c'est pour ça que je conseille toujours de partir avec un guide ou un chauffeur guide, ou alors il faut vraiment avoir l'habitude, quoi, connaître, parce que un éléphant, ça renverse une bagnole en 2 minutes 30, hein, c'est pas compliqué.
Bien sûr. Voilà. Et surtout, en plus, en 2023, tu te dis, il y a tellement des tarés en fait qui vont prendre des risques inutilement, tu vois.
Enfin,
juste petite anecdote, j'étais en Virginie aux US il y a 2 mois. Et on voyait en fait des ours en état naturel et un mec juste qui sort de sa voiture et qui va prendre en photo des bébés ours, quoi, tu vois. Et t'es là, mais gars, si la mère elle arrive là, t'es fini, quoi.
Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être dans un zoo, quoi, alors qu'on est vraiment au milieu d'un parc naturel avec des animaux qui sont dans leur élément naturel.
C'est ça. Mais du coup, enfin, comment... Tu me dis, j'ai été diplômée, etc. Moi, ça me rend dingue quand même de me dire, il y a une école guide safari. Tu as eu un diplôme guide safari. Genre, comment ça se passe? C'est quoi cette licence? Tiens, demain matin, j'ai cours. On va aller voir les éléphants pendant 2 heures.
C'est ça.
C'est ouf. C'est genre le rêve.
C'est exactement ça. C'est une année, il y en a plusieurs, hein, en Afrique du Sud, au Botswana. Moi, je suis allée en Afrique du Sud, mais tout autour des réserves privées et des parcs et du parc Kruger en Afrique du Sud, il y a plusieurs écoles. Ça s'appelle, en fait, le diplôme, c'est Nature Guide ou Bush Guide. Et donc, voilà, les cours, en gros, c'est six mois de cours. Donc, tu as les cours très tôt le matin et les safaris l'après-midi pour apprendre ton métier sur le terrain ou l'inverse. Tu as les safaris très tôt le matin et l'après-midi, tu auras les cours. Tu fais ça pendant 6 mois, tu passes ton diplôme. Alors, le diplôme, c'est aussi bien une séquence de guidage avec les profs, avec tous les élèves derrière, où tu fais vraiment, tu dois guider comme un professionnel. Mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a tout, évidemment tout le côté des connaissances, mais il y a aussi savoir changer une roue d'un 4x4 avec 16 personnes derrière, tu vois, avec le cric tueur, là, tu sais, le cric énorme, là, sur ça qui fait que si tu te le prends dans la figure, au moins, tu es sûr que tu t'en sors pas. Il y a toutes ces étapes.
Attends, le cric africain, c'est quoi ça? C'est un truc énorme pour les roues?
Ben voilà, c'est un truc énorme qui est adapté. En fait, c'est pas un 4x4. En fait, nous, c'est des 4x4 avec une dizaine de sièges à l'arrière, tu sais, qui vont un petit peu en escalier pour pouvoir emmener les gens en safari. Donc, c'est des trucs énormes, des Land Cruiser énormes. Ouais. Et donc, pour changer une roue de ça, et si tu changeais pas la roue, si tu arrivais pas tout seul, tu pouvais pas avoir ton diplôme. Donc, c'était pour moi, c'était l'étape ultime, quoi. C'était... Parce que quand t'es
et t'as réussi, les doigts dans le nez, je suis sûre.
Non, pas les doigts dans le nez, j'ai quand même galéré.
Et du coup, donc attends, donc t'as des cours théoriques où t'apprends plus, donc du coup, dans une salle, j'imagine, où t'apprends la faune et la flore, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Quels sont les animaux protégés? C'est quoi, en fait, ce que t'apprends vraiment au niveau théorique?
Voilà, c'est tout ça. Ça part de la biologie, on fait de l'astronomie, on fait de la géographie, on apprend à reconnaître...
Astronomie, waouh.
Ah oui, l'astronomie, pour pouvoir le soir, pendant les bouches dîners, ou tu vois, ou les montrer, on a appris différentes histoires sur les constellations. C'est très, très poussé, hein. Vraiment, c'est... On parle beaucoup d'éthologie, donc d'études du comportement des animaux. Évidemment, le but, c'est de décrypter les comportements inter-espèces qu'on va observer. On fait reconnaissance des arbres, évidemment. La reconnaissance du son des oiseaux. Il fallait qu'on connaisse un minimum d'une cinquantaine de sons, de chants d'oiseaux qu'on puisse reconnaître juste à l'oreille. Donc, non, c'est vraiment c'est une formation très, très poussée, très intense. Et mais on sort de là.
Et magique.
Oui, magique. Il n'y a pas d'autre mot. Magique. La plus belle année de ma vie.
Ah ouais. Et c'était quoi ta matière préférée?
C'était l'éthologie, moi. L'ancêtre de l'éthologie, c'est la zoologie. C'est Conrad Lorenz, c'est un des premiers qui a... On a parlé de zoologie. C'est vraiment l'étude du comportement des animaux. Pourquoi tel animal va se comporter ainsi dans telle situation? Quelles sont les connexions entre les espèces à l'intérieur d'une même espèce? Moi, c'est vraiment les fondements de ma passion.
Ouais, donc comment ils communiquent ensemble, les différents sons. Par exemple, un lion... je sais même pas, ok, je suis très nulle en vocabulaire, je sais même pas ce que le lion rugit. Non.
Oui, il rugit.
En plus, c'est le plus simple, mais c'est pas grave. Quel son il fait? Est-ce que c'est le son de quand ils sont en chaleur et qu'ils essayent de se reproduire? Est-ce que c'est le son où plus c'est je suis là, je t'ai vu, je sais que t'es humain, tu ferais mieux de partir? J'imagine que tout ça, tu t'en parles aussi, non? Pendant tes guides safari avec les gens, en fait, tu les sensibilise quelque part au final.
Exactement. Alors moi, je fais énormément de sensibilisation. C'est le nerf de la guerre pour moi. La conservation, la protection des animaux sauvages, ça, j'en fais énormément. Je parle beaucoup aussi du braconnage. Voilà, moi, il faut vraiment que je sensibilise. J'imagine pas un safari où il n'y a pas un volet sensibilisation, parce que pour moi, c'est tellement important, ne serait-ce que déjà d'aller faire un safari, c'est faire un pas pour les protéger, puisque les gens qui payent les entrées dans les parcs nous aident à les protéger. Mais voilà, potentiellement, c'est tout ça. C'est combien? Alors, il y a des gens qui vont avoir beaucoup des questions. Combien pèse un lion? Voilà. Souvent, les hommes vont avoir des questions beaucoup très chiffrées. C'est combien ça pèse et ça peut courir à quelle vitesse, etc. Et les femmes vont avoir des questions un peu plus portée vers la maternité, combien les temps de gestation. Voilà, c'est rigolo, hein, comment c'est fait. Mais voilà, potentiellement, mais tout ça et justement, comment voilà, les éléphants, par exemple, ou les lions, quels sont les signes qui nous montrent que là, on est rentré dans leur zone de confort, comment potentiellement ils peuvent réagir, comment on va anticiper ça. C'est tout le décryptage de tout ça.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des trucs comme ça fou à raconter ou pendant du coup ton étude, ton année où tu étais en deep guide safari ou pendant que tu as été guide safari, est-ce que tu as des choses comme ça folles qui se sont arrivées?
Oh ben j'ai une anecdote où on a fait des nuits de camping, mais vraiment en camping sauvage, donc au milieu de la réserve, à la Belle Étoile, sans tente, sans rien. Donc on allait tout avec les petits. Ah oui, au milieu de tous les animaux, hein, potentiellement les lions, les éléphants, etc. Et
attends. Tu peux pas me balancer ça comme ça et pas m'expliquer. Explique-moi vraiment, c'est quoi ça, une nuit? Ok. Décris-moi la nuit en pleine brousse comme ça, sans tente. Mais attends, t'as des gens qui sont OK de faire ça. Bah, moi, je sais que Ça me tenterait, mais j'aurais trop peur.
Non. Alors, je t'explique. C'est génial. C'était le rêve ultime. Hein. C'était la récompense ultime, tous les élèves, quand on nous disait « Waouh, on part en nuit à la belle étoile. »
Bah, j'imagine, ouais.
Ah ouais. Donc, en fait, on arrive avec les 4x4, chacun son sac de couchage. On fait un feu de camp au milieu. Nous, on met les sacs de couchage en étoile tout autour. Et après, voilà, il y en a qui vont commencer à préparer le dîner. Et en fait, on va tirer chacun un tour de garde. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, de minuit à 1h du matin, on met deux. On prend notre tour de garde à la torche avec le café et on regarde aux alentours s'il n'y a pas un animal qui s'approche. Et voilà. Et ça s'enchaîne comme ça jusqu'à 6h du matin. Donc, moi, évidemment, j'ai tiré le tour de garde. Moi qui, en plus, dors beaucoup et qui a du mal, etc. Puis là, j'étais surexcitée. Donc, 1h du matin jusqu'à 2h du matin, évidemment, j'ai ni dormi avant, ni dormi après. Tu t'imagines bien. Et donc...
Toi, tu les cherchais, toi. Tu voulais qu'ils...
Mais oui. Donc, moi, j'étais là et j'entends un bruit et tout à un moment. Donc, je dis à mon pote, je dis, mais reste au coin du feu, là, avec le café. Il n'était pas très réveillé. Je lui dis, reste là, je vais voir s'il y a un truc, j'entends farfouiller, etc. Donc, je vais avec ma lampe et tout, j'approche, et là, je vois une jeune hyène, mais magnifique. Je voyais qu'elle était jeune parce que, tu sais, le pelage, il est encore tout duveteux. Là, on voit que les poils, ils sont bien doux, etc. Toute jeune qui était là en train de se rapprocher parce qu'évidemment, on avait fait un barbecue, etc. Donc, la nourriture, les animaux, ils le sentent à des kilomètres. Donc, voilà, moi, j'ai eu qu'une envie, c'était de me rapprocher d'elle, et évidemment. C'est exactement ce qu'il faut faire envers un prédateur pour qu'il s'en aille, c'est-à-dire vouloir essayer de s'approcher de lui. Donc, elle s'est en allée tout de suite. Mais j'ai eu la chance de la voir comme ça, de très, très proche. On a eu vraiment un échange de regards incroyable. Et puis après, elle s'est évanouie dans la nature. Mais c'était une rencontre exceptionnelle.
Mais c'est ouf ce que tu me racontes. Tu me laisses en voix. C'est un petit peu hors du temps, en fait, au final.
Ouais.
Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et souvent, c'est des rencontres comme ça qui sont...
Ah ouais, c'est des rencontres.
J'imagine que ça devait être fou. Et du coup, tu dis, ils sont attirés par l'odeur. Donc, la nourriture humaine, ça les attire plus qu'autre chose au final. Je pensais que ça pouvait être l'inverse, tiens.
Ah non, bah alors de base, ils ont quand même cette peur instinctive de l'humain, ça c'est sûr. Mais s'il y a de la nourriture à prendre et que c'est pas trop compliqué, qu'il n'y a pas besoin de chasser ou quoi, évidemment, ils vont être attirés par ça.
Ouais, surtout une hyène.
Ouais, exactement.
Les hyènes, si je me souviens bien, c'est des carnassiers.
Ouais, carnivores, carnassiers. Mais par contre, ce qui est peu connu, on pense sûr que les hyènes ne mangent que des cadavres. Et non, c'est des très, très bonnes chasseuses, les hyènes. Elles ne vont, en revanche, chasser que si... Voilà, il n'y a rien de plus simple à leur porter parce que s'il y a un cadavre, elles vont s'en contenter. Donc, parce que chasser, ça nécessite de dépenser beaucoup d'énergie. Mais sinon, c'est d'excellentes chasseuses.
Ouais. Et du coup, pour parler de ça au niveau de la chasse, etc., et des animaux en pleine nature, est-ce que tu sens qu'il y a quand même une grosse différence parce que ça fait quand même, tu me disais, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça, ou plus de 20 ans, je ne sais plus.
Ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans
maintenant. Plus de 10 ans. Est-ce que tu sens qu'il y a, eu un impact de l'homme sur les guides safari en Afrique ? Est-ce que tu sens que... dans leur état naturel, il y a une différence que justement tu disais, elles vont s'attaquer aux carnassiers si jamais il n'y a rien d'autre à manger. Est-ce que tu sens que la patte de l'homme en fait a un peu détruit cette beauté naturelle et un petit peu intouchable de l'Afrique au final?
Il y a toujours une fine limite entre laquelle le tourisme va pouvoir bénéficier, enfin donner un bénéfice et quelque chose d'intéressant et de l'autre côté où elle peut être nocive. Moi, j'ai tendance à dire que quoi qu'il arrive, tous ces animaux, tant qu'on s'intéresse à eux, tant qu'on va les voir dans leur habitat naturel, ouais. Ça leur donne une valeur marchande. Malheureusement, on est dans un monde où si quelque chose n'a pas de valeur marchande, il vaut rien. Donc voilà, tant qu'il y a une valeur marchande, on va dire dessus, que les gens payent pour aller les voir, on peut les protéger, on peut encore garantir qu'ils vont être là encore dans quelques années. Et bon, on se bat tous un peu pour ça pour le moment, parce que ça fait des années qu'on nous dit « Ah, mais dans 10 ans, il n'y aura plus de gorilles, il n'y aura plus de rhinos, etc. » Bon, pour le moment, voilà, on croise les doigts, mais pour le moment, c'est pas le cas. On a toujours ces animaux magnifiques. Il y a même des populations qui augmentent. Les gorilles des montagnes, par exemple, il y en avait pratiquement plus que 500. Maintenant, on est à plus de 1000. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et les pays dans lesquels ils vivent se sont incroyablement mobilisés pour ça. Donc, ça, c'est génial.
Donc, mais tu sais que c'est rigolo que tu parles de ça parce que les gorilles des montagnes, c'est mon rêve ultime de voir ces gorilles. Moi, j'ai toujours été passionnée de singes depuis petite et Tarzan, forcément, a grandi mon amour pour les gorilles, etc. Et je rêve d'aller en Ouganda et je sais que tu y as été.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Est-ce que c'est un safari ça aussi ou pas ? C'est quoi vraiment en fait le terme safari ? Et parce que moi j'imagine que le safari c'est que dans la brousse africaine et que tu vas voir les girafes, les lions, les éléphants. Mais en fait si j'ai bien compris, safari c'est en fait la rencontre avec un animal. Comment ça fonctionne ? Et si tu peux nous parler un petit peu des gorilles en Ouganda ?
Alors, safari, en fait, c'est un mot qui vient du Kiswahili, donc le langage local en Afrique de l'Est, ça veut dire voyage.
Kiswahili, ok.
Ouais, voilà, ça veut dire voyage en Kiswahili. Donc, en fait, c'est le fait de voyager tout simplement à safari, mais c'est vrai que là, c'est, en fait, on appelle un safari quand on va tout simplement observer les animaux dans leur habitat naturel de façon plus générale. Donc, okay. En Ouganda, on n'a pas que les gorilles, on a plein de parcs où il y a les Big Five, les grands animaux emblématiques de la faune africaine qu'on appelle les Big Five. Donc, les cinq grands, quoi, c'est-à-dire le lion, le léopard, le buffle, le rhino et l'éléphant. Ça, c'est les cinq.
Donc, ça c'est dans les guides safari, c'est les termes que vous avez ensemble.
Voilà.
Les Big Five.
Les Big Five, ça veut dire voilà. Éléphant, rhino, léopard, lion et buffle.
Et buffle, ok. Pourquoi ce sont les Big Five et pas d'autres animaux, par exemple ?
À la base, c'est les animaux les plus recherchés pour la chasse, parce que le safari photo découle du safari chasse. À la base, on faisait que du safari chasse au siècle dernier. Donc, c'était les cinq grands animaux les plus emblématiques de la faune africaine qu'on avait du mal et qu'on essayait le plus de chasser. C'est resté maintenant dans la chasse photographique et heureusement que maintenant, on en est bien plus à faire du safari photo. Mais voilà, ça reste les cinq animaux vraiment les gros animaux emblématiques de la faune africaine que tout le monde veut voir quand on va en safari. Okay. Donc, en Ouganda, tu as des parcs, tu as Queen Elizabeth, Murchison Falls, tu as plusieurs parcs où tu peux voir tous ces animaux faire du vrai safari comme en Tanzanie ou Kenya. Et en plus de ça, tu as la forêt impénétrable de Bwindi où tu peux aller voir les gorilles des montagnes.
Celle-ci.
Voilà, c'est celle-là. Et effectivement, alors là, on appelle ça un trekking aux gorilles, en fait. Donc, tu vas passer, voilà. 4, 5, en fonction de l'endroit où est située la famille de gorilles qui t'a été attribuée et que tu vas aller voir dans un petit groupe de 8 personnes. Voilà, tu vas marcher 3, 4, 5, 6 heures. Des fois, ils font durer un peu le suspense. Moi, je me souviens au Rwanda, franchement. Ils nous disaient « Ah, ils sont bientôt là, ils sont bientôt là ». Moi, ça faisait une semaine que je ne dormais plus parce que c'était mon rêve de gamine de 8 ans. Tu vois, je ne dormais plus depuis une semaine, sachant que j'allais les voir. Et après, tu continues à marcher, mais tu n'en peux plus. Tu ne sais plus si tu marches par terre, dans un arbre, tu grimpes et tout. Et là, ils disent « Ah, ils sont bientôt là et tout. » Et tu remarches une heure et d'un coup, ils ne te préviennent pas. Et là, d'un coup, tu vois ton premier gorille. Tu vois ton gorille comme ça qui arrive de nulle part. Et là, je ne t'explique pas l'émotion, quoi. C'est un
décris-moi
moment.
Décris-moi ce moment où tu es dans la forêt, justement, comme ça. C'est complètement différent, justement, de la brousse. Là, à l'inverse, tu te sens vraiment perdu dans la nature, non ?
Ah oui, là, c'est vraiment très, très dense. La forêt, serait impénétrable, comme elle porte très bien son nom. Donc, c'est très dense autour. Et donc, tu vois pas, tu commences à... Puis, tu sais, t'as l'excitation, la fatigue, il y a tout qui se mêle. Et en fait, tu commences à entendre, à voir que ça bouge un peu. Et puis, tu te rapproches. Et puis, les guides, les rangers qui t'emmènent font un peu leur job aussi. Tu vois, il faut monter le suspense. Et d'un coup, voilà, ça se découvre devant toi et tu vois une grosse masse noire comme ça en train de manger tranquillement une pousse de bambou.
Oh mon Dieu, ça doit être ouf.
Et c'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est une heure. Alors, en tout et pour tout, tu passes une heure en leur compagnie et ça passe vraiment très, très, très vite. Et c'est une heure maximum.
J'imagine,
Et après, on repart. Et il y a tout le trekking avant et après qui est aussi très, très intense et très intéressant. Et on peut voir d'autres animaux aussi, potentiellement d'autres singes, des petites gazelles, etc. Mais voilà, cette heure, en fait, on ne revient jamais. Ça, c'est vraiment un voyage qui change la vie. Hein, le fait d'avoir plongé ses yeux dans les yeux d'un gorille, il y a un avant et un après, vraiment.
Et c'est quoi quand tu as plongé tes yeux dans...
Je sais pas, t'as l'impression, tu sais, comme dans Tarzan, il dit le chaînon manquant, quoi. T'as l'impression d'une reconnexion à une partie de ton âme, quelque chose qui vient de tellement loin et en même temps qui est tellement proche. Et t'as l'impression de tous les gestes. Enfin, moi, j'ai vu une maman avec son bébé, elle le berce, t'as l'impression qu'elle lui parle et tout. C'est une reconnaissance de toi, mais en différent, quoi. C'est exceptionnel. C'est vraiment hyper compliqué à décrire. Et puis vraiment, le eye contact, comme on dit, tu sais, échange de... Parce qu'ils plongent vraiment leurs yeux dans les tiens et c'est très, très profond comme échange. Ils soutiennent le regard, c'est pas... Il y a vraiment une connexion qui se fait qui est très forte.
Et du coup, je suis très curieuse de savoir pourquoi... Enfin, j'imagine savoir, mais Quand tu dis on passe une heure avec eux, est-ce que c'est fait exprès justement pour, ok, ils sont habitués un peu à notre présence, mais pas trop quand même?
Oui, exactement. Le but, c'est qu'ils restent au maximum avec en gardant leur comportement naturel. Donc, c'est des animaux qui ont été habitués à l'avance avec des scientifiques pour accueillir, entre guillemets, on va dire, être approchés par les voyageurs. Mais le but, c'est quand même que la majorité de leur temps, ils le passent à vivre leur vie de gorille. Donc, c'est une heure, c'est pas plus. Et les familles changent et c'est pas toujours les mêmes familles. Et voilà, c'est très, très surveillé, c'est très, très réglementé. Parce que, et là-bas, vraiment, mais dans le parc au Rwanda comme en Ouganda, dès qu'il y a une naissance de gorille, tout le monde fait la fête. Enfin, les villages aux alentours, les rangers, on donne un nom au bébé. Voilà, un individu de plus, ça augmente la population et c'est un pas encore de gagné sur. Et on s'éloigne encore plus de l'extinction. Donc, c'est. Non, c'est des animaux hyper, hyper précieux.
Trop beau. Et du coup, donc, tu sais à peu près combien de familles il y a? Genre, C'est ouf quand même que vous puissiez savoir combien de familles il y a et alors, tu sais à l'avance en fait, ils vont te dire ok là aujourd'hui on va avoir telle famille, il y a tant d'enfants etc. Est-ce qu'ils savent un petit peu les personnalités des différents singes?
Ah oui.
Est-ce qu'ils t'en parlent avant ou t'es en pleine surprise quand tu les vois?
Ah non, ils connaissent tout. Toutes les familles de gorilles sont suivies H24. C'est-à-dire que tu as des rangers qui vont suivre les gorilles toute la journée. On a les données GPS de toutes les familles de gorilles. Et quand ils s'installent à la tombée de la nuit pour construire le nid, là, la première équipe s'en va, donne les coordonnées GPS à la deuxième équipe qui va les récupérer au moment où ils repartent le lendemain matin. On sait toujours où ils sont, on sait combien ils sont. C'est vraiment hyper, hyper suivi. Et c'est des gens qui vivent H24 avec eux. Ils sont jamais au milieu du groupe, tu vois, pour leur laisser leur, comme je le disais, leur comportement. Mais non, on sait exactement combien il y a d'individus, les âges, s'il y a des maladies éventuelles, s'il faut intervenir, parce que potentiellement, on pourra intervenir si y a un animal qui risque vraiment la mort et qu'on peut faire quelque chose.
Ok. Waouh. C'est ouf. Les personnes dédient leur vie, en fait.
Ouais.
À l'animal, quoi. Mais du coup, quand souvent tu vois des photos, même en guide safari dans la brousse, tu les vois souvent, donc ils sont souvent habillés en marron et ils ont souvent une espèce de mitraillette. Est-ce que ça, c'est. Non. Je te vois, tu brosses ton sourcil comme ça. Les rangers, tu vois.
Voilà.
Est-ce que justement. Ouais. Donc déjà, c'est quoi la différence entre un ranger et un guide safari? Et est-ce que c'est pour se protéger ou pour protéger l'animal justement de potentiels braconniers, t'en parlais tout à l'heure?
Ouais, donc les rangers, c'est vraiment les protecteurs des animaux. Eux font pas du guidage.
Ok, d'accord.
Eux, c'est vraiment eux qui sont, donc ils vivent sur une base, sur le parc dans lequel ils travaillent. Le but, c'est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible si jamais il y a une alerte de braconnage, de braconnier. Et évidemment, clairement, les mitraillettes que tu as pu voir, c'est par rapport à ça. Il y a même des équipes cynophiles maintenant. Il y a des chiens aussi qui peuvent aider à chercher les bracos, etc. Il faut savoir que le braconnage, surtout pour la corne de rhino, quand on connaît le prix, c'est hallucinant. Hein. C'est une vraie mafia. Hein. Ils viennent avec des AK-47, ils ont des drones. Ça peut vraiment tourner à des scènes de guerre terribles pour aller récupérer quelques grammes de cornes de rhino. Malheureusement, on en est là. Donc,
mais ils en font quoi avec ces cornes de rhino? Enfin, c'est quoi leur but en fait?
Alors, la corne de rhino, de base, c'est très connu pour être dans la pharmacopée chinoise et asiatique de façon générale depuis des générations et des générations. Donc, on a beaucoup parlé de ça, comme quoi ça pouvait guérir le cancer ou ci ou ça. Il n'y a pas que ça, c'est aussi un signe extérieur de richesse, sachant que chez les Chinois, eux n'ont pas accès à Internet et à tout ce à quoi nous, on a accès. Donc, c'est des gens qui sont quand même très, très désinformés à plein, plein de niveaux différents. Et qui vivent comme ça depuis la nuit des temps, qui n'ont pas forcément conscience, malheureusement. Et donc, les familles riches, ils peuvent commander le manche d'un poignard en corne de rhino, ou faire des bijoux. Comme, en fait, c'est pratiquement la même chose que pour les défenses d'éléphants. Hein. Voilà.
C'est ce que j'allais te dire, tu vois, dans ma famille, ma mère, il y a des années de ça, elle a un ami à elle qui était en Afrique en vacances et lui a rapporté une sculpture, en fait.
De défense
avec justement un lion qui a une hyène Donc, c'est sculpté dans le... C'est très beau, voilà. Hein, mais c'est très triste, quoi, en fait.
Voilà.
Et elle me disait, quand on en parle de ça, elle me disait, à l'époque, c'était... Enfin, c'était normal, en fait. C'était le souvenir lambda, quoi, que tu ramenais d'Afrique, quoi.
Oui, c'est ça. Mais on avait des milliers, des dizaines de milliers d'éléphants et ils en butaient à la pelle et ça posait pas de soucis jusqu'au moment où on s'est rendu compte que 30 ans après, mais en fait, la population,
ouais.
elle est passée de 100 à 10 % quoi.
Ouais, et puis même, c'est de base, en fait, c'est horrible. Tu fais pas ça en être humain, quoi.
Exactement.
C'est dégueulasse. Et du coup, toi, est-ce que tu as vécu... des moments comme ça où il y avait des braconniers dans les zones où tu faisais des guides safari, est-ce que...
Quand j'étais... alors, la deuxième partie de mon école de guide, j'ai été guide stagiaire, en fait, dans un lodge à côté du Kruger en Afrique du Sud. Et là, oui, on faisait sur la réserve du lodge, on faisait des unités anti-braco les nuits de pleine lune, parce que c'est surtout les nuits de pleine lune qui venaient. Et donc, évidemment, j'ai participé, bah, forcément, hein, c'était obligé.
Ouais.
Donc, en fait, la nuit de pleine lune, on ne met pas les phares. On voit quand même très, très bien avec la lune qui est pleine.
C'est parce que tu vois bien qu'ils viennent en pleine lune?
Ouais, c'est parce qu'on voit beaucoup mieux qu'ils. En général, ils viennent. Alors nous, sur notre réserve, voilà, il n'y avait pas de rhinos ni d'éléphants, donc c'était pour ce qu'on appelle la viande de brousse. Donc ils posent des collets, c'est-à-dire des pièges en fait. C'est comme c'est tout simplement un piège en fer, hein, tout simplement. Et l'animal va se prendre la patte dedans, ça va se refermer, ça va serrer.
Il peut pas bouger.
Il peut pas bouger, ou alors il va tirer, il va réussir à s'en aller, mais il aura toujours ça qui va continuer à s'incruster dans la chair et il peut potentiellement en mourir, perdre une patte, etc., etc. Donc nous, voilà, c'était plutôt eux qu'on... Et on est tombé nez à nez avec une petite équipe de bracos. Et puis bon, bah, c'était pas le même type de braconnage, évidemment. Il n'y avait pas les mêmes enjeux. Donc ils sont pas arrivés avec des AK-47.
Ouais.
Ils sont assez rapidement partis. Ils ont pris la fuite quand ils ont vu qu'on était là, qu'on était présent sur la réserve, etc. Et puis on faisait aussi beaucoup sur la réserve, tu sais, des tranchées pour récupérer, ramasser les collets qui sont un petit peu partout, qui foutent partout, justement, pour pas que les animaux puissent se prendre dedans. On faisait aussi des opérations, justement, quand on avait repéré un animal, notamment, il y avait une girafe qui avait ça à la patte, et ça devenait vraiment urgent de le lui enlever, de nettoyer tout, parce que c'était en train de se nécroser. Donc, on avait endormi une girafe. C'est hyper compliqué, une girafe, parce qu'une girafe, il faut jamais que le cou y pende. Hein, il faut tenir le coup comme ça parce que sinon il y a toute la pression artérielle qui descend dans la tête et elle peut mourir en quelques minutes quand elle boit. C'est pour ça qu'en fait elle reste jamais très longtemps la tête en bas. Elle écarte les jambes, elle reste la tête et très très vite elle se relève parce qu'en fait il y a tout l'afflux de sang dans la tête qui vient et ça peut être très très vite dangereux pour elle. Donc nous on était comme ça en train de tenir le coup.
Ouais. C'est ouf. Donc attends. Elle écarte, c'est pour ça qu'elle écarte ses jambes pour en fait
maximum.
Être un petit peu plus bas.
Voilà,
et
exactement.
Du coup, pas avoir besoin
de trop baisser.
Ah ouais, c'est dingue.
Ouais. Et donc nous, quand on dort une girafe, en général, elle tombe dans les deux minutes. Faut la récupérer, faut tenir le coup. On était 10 comme ça, machin.
Attends, mais comment tu récupères une girafe? C'est immense.
Bah, comment elle s'affale. Elle s'affale en fait, hein, avec ses grandes pattes. Donc déjà, elle est juste à côté de nous.
Ouais,
et
donc
puis,
elle s'assoit
en fait,
d'abord.
Voilà, elle va s'asseoir. Après, elle va tomber un peu sur le côté. Et nous, on devait garder le cou bien droit.
Bichette. Attends. Le cou bien droit, mais allongé sur le sol ou le cou bien droit, genre...
Droit comme ça, hein. Ah bah oui.
Attends, mais combien de... Mais attends, mais un cou de girafe, ça mesure des mètres et des mètres, non?
Non, peut-être pas quand même.
Non, non. Bah moi je viens du sud, hein, tu sais, près de Marseille, on aime bien extrapoler.
Non, il est arrivé. Bon, il y avait celui qui tenait le plus haut, il devait faire 1m80, mais ça va, on a géré.
Mais ça fait combien le coût d'une girafe, du coup, en largeur?
Je peux pas dire, ça va dépendre si c'est un mâle, si c'est une femelle, si c'est un bébé. En largeur, bah, c'est pas. C'est
pas... Non, pas en largeur, en longueur.
En longueur, c'est entre 1m et 1m50, quelque chose comme ça, tu vois, c'est pas non plus délirant. Donc une fois qu'elle est posée,
ouf.
Qu'elle est assise, ça va, ça gère.
Tu montes dessus du coup, comment tu fais?
Non, nous on tenait juste le côté, elle était affalée sur le côté, le temps que le veto fasse très très rapidement, coupe le truc en fer, nettoie, etc. Et après, hop, il lui remet l'injection pour la réveiller et elle se relève d'un coup, bim.
Oh, bichette. C'est agressif, une girafe?
Ça peut, hein, si c'est un mâle et que c'est un vieux mâle, comme beaucoup d'animaux vieillissants, les vieux buffles, les vieilles girafes, les vieux éléphants, potentiellement, ils sont grumpy, comme on dit. Hein. Ils sont un peu...
ouais, faut c'est pas grincheux.
Trop les chercher. Voilà, faut pas trop les chercher, ils sont un peu grincheux.
Et du coup, mais t'avais déjà vécu des attaques comme ça, ou des petits grincheux qui ouais. essayent de t'attaquer en safari ou quoi?
Avec les éléphants, ouais. Avec les éléphants, ça nous est arrivé plein de fois avec les clients dans la voiture. Et bon, après, voilà, la chance, c'est que quand tu connais bien ton métier, tu vois les signes. Les éléphants, ils vont pas secouer les oreilles de la même façon quand ils ont besoin de faire baisser leur température que quand ils sont énervés parce que t'es trop proche. Et en gros, même si t'es pas dans sa zone de confort, tu l'énerves, t'es là, ça lui convient pas, quoi. Donc déjà, tu repères ça très vite. Après, ils écrasent la trompe par terre. Ça, c'est un autre signe que tu les fais chier, et après, ils commencent à gratter par
c'est
terre,
ouf.
Et là, tu dis, bon, on va y aller. Hein,
ok, là, faut y aller.
Et là, tu démarres. Et là, tu démarres, et un jour, j'ai démarré peut-être un poil deux secondes trop tard, et ouais, il nous a coursé quand même. Hein.
Ça doit être impressionnant quand même.
Ouais, mais c'est génial. Après, les clients, ils aiment bien aussi, parce que
là,
ça,
ouais,
ça fait partie
bah
de l'aventure,
oui.
quoi.
Ouais, se donner de l'adrénaline aussi, je pense.
C'est ça.
Puis et moi, j'ai vu... Non, vas-y, dis-moi.
Tu entends derrière, ils trompettent, quoi. Tu
Ouais, il n'est pas content. Ouais.
Il est
souvent,
pas content,
c'est,
ouais.
C'est les femelles ou les mâles qui sont plus comme ça?
C'est les vieux mâles, parce que les vieux mâles, ils sont souvent seuls. Déjà, les mâles, c'est des groupes, c'est des sociétés matriarcales, les éléphants. Donc, c'est les femelles qui restent entre elles avec les bébés. Et les éléphantaux mâles vont être chassés du groupe à partir du moment où ils sont à maturité sexuelle. Et après, petit à petit, ils font leur vie. Mais souvent, quand tu vois un éléphant tout seul, c'est un vieux mâle.
Ah, mais c'est fou, tu vois, parce que j'étais persuadée que les éléphants, en fait, ils vivaient en groupe. Et parce que tu entends souvent ce mythe qui en soi n'est pas un mythe, je pense.
Le cimetière des éléphants.
Exactement.
C'est un, ouais, alors ça a été, je pense, un petit peu, ça a débordé un petit peu, mais effectivement, on a retrouvé des endroits. Mais les éléphants ont une sensibilité incroyable, ils reconnaissent certains des membres de leur famille après 15 ou 20 ans sans les avoir vus. On a déjà vu des éléphants venir se recueillir à des endroits où certains de leurs groupes sont morts. Il y a des histoires assez incroyables. Hein. C'est des animaux hyper sensibles, un peu comme les chevaux, quoi, qui ont une sensibilité, une connexion et des émotions, et qui ressentent les émotions très, très fortement.
Ouais. Et là, du coup, ça me donne envie de rebondir sur ce diplôme que tu as eu. Après avoir eu ce diplôme et que ça y est, tu es guide safari, etc., est-ce que du coup, parce que là, tu me dis que tu es en France, est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es encore guide safari? Est-ce que c'est facile d'en vivre? Est-ce que tu retournes souvent là-bas? Est-ce que, pourquoi tu es rentrée, tu vois? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à ce niveau-là?
Alors, de toute façon, moi, je ne pourrais jamais rester éloignée du continent africain très longtemps. J'ai besoin de ma dose d'Afrique tous les ans. Donc, je suis toujours... c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment une drogue. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Quand je retourne en Afrique, au bout de 6 mois que j'atterris, je sens l'odeur. J'ai tout de suite les larmes aux yeux.
Je suis à la maison.
Ouais, c'est ça. C'est une émotion. Donc, je suis rentrée parce que j'avais quand même besoin de retrouver ma famille, de me poser. J'avais un peu, voilà, passé la quarantaine, ce besoin d'avoir un peu mon cocon à moi quand même, de m'établir, de retrouver mes racines, etc. De me refaire des amis aussi parce que j'ai beaucoup bougé, donc j'ai perdu beaucoup d'amis et de gens. J'avais besoin de me refaire un petit peu une famille de sang et d'émotions. Mais je continue bien sûr à créer, à monter des safaris et à accompagner. Alors, je le fais moins souvent. J'avais accompagné des petits groupes 2-3 fois par an. Je pars aussi en repérage au moins une fois par an. Donc, voilà. Ça reste
super. Donc, tu continues, mais en France, en fait. Enfin,
au départ de la France, voilà. Je reste basée ici.
France.
Mais voilà, je vais accompagner un groupe, là, normalement, l'année prochaine, en juin, et un autre au mois de novembre, ça va être sur le Kenya. J'ai la chance de travailler avec des agences qui me font confiance. Donc, sans, c'est moi qui design l'itinéraire, qui dit « Non, mais là, il faut que je les emmène là. Là, il y a trop de trucs à voir et personne n'y va. » Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ça en corrélation avec l'agence. Et puis, à côté, au quotidien, je continue à monter des voyages pour les personnes qui vont voyager et qui vont être guidées par des guides locaux. Mais voilà, moi, les guides locaux que je connais, je les connais tous. Mes guides, et je sais qu'ils sont top et qu'ils sont exceptionnels et que les gens vont faire un voyage magnifique.
C'est ouf, du coup. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, t'es à ton compte, en fait, en tant que guide safari, et tu travailles avec des agences?
Oui, Exactement, je travaille avec des agences locales que je connais très très bien, certaines pour avoir même travaillé avec elles sur place, donc voilà, et puis que je vais voir régulièrement, donc je rencontre les guides, je pars avec les guides, etc. Et l'avantage de ça, c'est que les gens vont juste acheter leur vol en fait, et en passant par moi, ils vont payer l'agence locale qui va me rétribuer à moi une commission.
Bien sûr, ouais.
Voilà, ça se passe comme ça, et ça évite en fait d'acheter un voyage en France où en fait ils vont acheter tout simplement un programme dans une agence locale, rajouter les vols et rajouter 25% de commission.
Ouais, tu vas payer une blinde et
tu vas payer une blinde. T'as pas d'expertise derrière parce que c'est des gens souvent qui sont généralistes, qui vendent le monde entier, donc ils pourront pas parler de l'Afrique. Moi, je fais que l'Afrique, donc évidemment que c'est pas du tout la même chose. Alors il faut les deux, hein, évidemment. Hein. Il faut les deux, mais pour les gens qui ont vraiment besoin d'avoir une expertise.
Et parce que t'as deux types de voyageurs aussi.
Exactement.
T'as le voyageur qui veut y aller pour dire j'y ai été.
Voilà.
Et puis t'as le voyageur qui veut y aller pour être touché émotionnellement.
Voilà.
Et comprendre le pays, quoi.
Voilà, exactement. Il y a des démarches différentes. Il en faut pour tout le monde. Voilà, tout le monde trouve sa place.
Ouais. Et du coup, là, admettons, je suis une auditrice qui nous écoute ou un auditeur qui nous écoute et je me dis, oh là là, j'ai trop envie de faire comme Adeline. Je veux devenir guide safari. C'est ça que je veux faire. Quel conseil tu leur donnes? Est-ce qu'il y a une école spécifique qu'ils devraient faire, qu'on mettra en lien dans la description? Est-ce que tu conseilles, est-ce que c'est une bonne idée, guide safari, est-ce que c'est dur, est-ce que je te disais pour en vivre, etc.
Alors ouais, des écoles de brousse, de toute façon il suffit de taper sur Google Bush School ou Bush Guide School, Afrique du Sud, Botswana, il y en a plein, elles sont géniales. Moi la mienne c'était Bushwise. On pourra mettre le lien évidemment avec plaisir, mais voilà, il y en a vraiment plein. Elles sont top et le programme est le même pour toutes.
C'est en anglais ?
Ouais, c'est tout en anglais.
Ouh là là !
Ouais.
Bon, moi ça va, je parle anglais, tu vois, mais j'imagine le moi d'il y a quelques années qui parlait pas un brin d'anglais.
Alors je t'avoue pour la petite anecdote que ça ne m'a jamais effleuré. J'avais un anglais très scolaire avant de partir, mais jamais je me suis dit oh non, bon non, ça va être compliqué. Bon, j'ai bossé trois fois plus que les autres, on était deux francophones dans ma promo. Évidemment, personne s'est adapté à notre niveau d'anglais, donc on a vraiment bûché.
Comme carburé.
On a carburé. Bon, et j'en suis sortie bilingue et là, je suis bien, bien contente. Mais ouais, non, ça ne m'a pas du tout arrêtée. Au contraire, c'est un truc auquel j'ai même jamais pensé. Mais ouais, tous les cours sont en anglais. Après, voilà, en fait, le plus simple, une fois qu'on a son diplôme de guide, bah, c'est de rester dans le pays et de trouver un lodge pour être recruté, pour être guide dans ce lodge-là. Parce que c'est vrai que ma formule à moi, c'est la plus compliquée. On est d'accord. Et voilà, elle est venue au bout de vraiment d'années d'expérience, quoi. Hein.
Ouais, où tu t'es dit, OK, j'aime être là-bas, mais il faut quand même que je sois près de ma famille. Donc, je peux allier les deux. Je fais mon propre business.
Mon propre schéma, quoi. J'ai créé
mon propre schéma. Et c'est du ça. Coup, c'est compliqué de rester là-bas. Non, je pense qu'à partir du moment où tu es diplômé et que quelqu'un t'engage, est-ce que c'est facile d'avoir un visa en Afrique, en fait ?
C'est le plus dur. Le plus dur, c'est d'avoir un work permit, un permis de travail, parce que ça coûte très cher et parce que, en fait, la plupart des gouvernements africains ont besoin que tu prouves que tu vas occuper un métier qu'un Africain ne peut
pas
occuper.
C'est pas remplaçable. Voilà. C'est ça.
Et c'est très cher. Et donc, et ça, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est le truc le plus compliqué. Et puis, alors, si toi, t'as les fonds, tu vois, si t'as 6 000 euros à payer pour un work permit de 2 ans, c'est top. Mais en général, on les a pas. Donc, c'est l'agence ou le lodge qui va te recruter qui doivent les payer. Et là, c'est encore une autre histoire, quoi.
Ouais, ouais. Bon, mais c'est ouf. C'est ouf tout ce que tu nous racontes et tu nous partages aujourd'hui. Il y a un truc que j'aimerais te demander à la fin de chaque épisode. On a deux petites questions qu'on aime poser et j'ai envie que tu nous partages ça. Si je te donnais
une de mes premières aventures de oh là là, c'est hyper compliqué.
Et que tu revives un seul moment de tes premières aventures de guide safari vraiment en pleine brousse, ce serait lequel ? Yeux où ça t'a complètement bouleversé.
Ah si, ça y est, j'en ai une. Mais j'en ai effectivement plein, mais c'est difficile d'en détacher une comme ça.
Et ouais.
et j'ai été bouleversée plein de fois. Mais alors, durant l'école, quand on était, alors c'était, j'étais pas encore vraiment guide professionnel, c'était pendant l'école de guide, pendant un des safaris qu'on faisait. Et en fait, les 4x4, c'est un petit peu échelonné comme ça, si tu veux, pour les vrais 4x4 quand tu fais du safari. C'est tout ouvert en Afrique du Sud. Et donc, avec ma copine Sophie qui a fait l'école avec moi, qui était l'autre francophone, on était complètement à l'arrière. Et en fait, d'un coup, je commence à sentir un truc dans mon cou comme ça. Donc, je suis comme ça et tout. Bizarrement, ça revient, etc. Je me tourne. Il y avait un jeune éléphant hyper curieux qui avait mis sa petite trompe là dans mon cou, puis qui était en train de farfouiller. Alors, je sais pas ce qu'il avait dû sentir, une bonne odeur. On se lavait pas tous les jours, je te l'avoue. Et en plus,
pour sentir la brousse.
Voilà. Et en plus, on mettait pas de parfum ni rien. Évidemment, eh ben c'était hyper important, tu vois, pour. Alors, je sais pas, hein, tu vois. Peut-être que c'était un des jours où je m'étais pas lavée, mais. Non, mais je me suis retournée et on était, mais on était à quelques, vraiment, il était là. Et puis, en plus, il était pas du tout désarçonné, quoi. Il était vraiment hyper à l'aise comme ça. Alors après, il est allé voir dans les cheveux de ma copine et tout. Et puis, il a continué comme ça. Et le prof qui était en train de conduire nous disait, bougez pas, vous dites rien. Et nous, on était dingues, quoi.
Il était tout curieux, plein d'audace, quoi.
Ouais. À des éléphants, les jeunes, en plus. Souvent, ils se mettent, quand ils sont tout petits bébés, ils se mettent devant les 4x4, comme ça, ils font genre, ils vont charger le 4x4, tu vois. Ils défendent la maman et tout. Ils sont où comme trois pommes? Mais c'est tellement drôle, mais c'est vraiment tellement drôle.
Oh, ça devait être ouf. Et quand j'étais en Thaïlande, j'étais allée dans un sanctuaire d'éléphants, justement, où, tu vois, t'en prenais soin, etc. Et il y avait le petit bébé complètement fougueux et qui s'était échappé de l'enclos. Il courait partout pour aller récupérer les cannes de sucre. Il partait avec la canne de sucre dans sa trompe qui était deux fois plus grosse que lui, tu sais.
Ouais,
c'était excellent.
Ah ouais, non, ils sont trop précieux, ils sont trop mignons.
Et ma deuxième question, c'est si tu devais résumer ta vie de guide safari en une citation. Une punchline ou une phrase de ta propre création, qu'est-ce que ce serait?
Alors, je vais dire qu'il faut toujours prendre des risques dans la vie parce que si je n'avais pas pris tous les risques, sans avoir l'impression d'en prendre, j'aurais jamais réalisé tous ces rêves de gamine, quoi. En fait, et puis quand j'en ai réalisé un, j'en ai réalisé 10, quoi. Ça a été une succession de rêves de gamine, les uns après les autres. Il faut juste, pas hésiter à juste prendre peut-être le premier risque.
Ouais, just do it.
Ouais, et on est toujours récompensé quand on prend des risques. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Hein. On est toujours récompensé quand on prend des risques, clairement.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Amen. merci beaucoup d'avoir été là parmi nous. J'aimerais que tu nous partages où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie peut-être d'infos sur comment devenir guide safari. Si demain, il y a quelqu'un qui nous écoute qui a envie justement de t'engager en tant que guide safari. Est-ce que je sais que tu as un livre, si tu veux nous en parler. Voilà, tout ça. Et bien sûr, on partagera toutes ces infos-là en dessous de l'épisode. Donc, vas-y, dis-nous tout.
Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pérégrination d'une roublarde » qui retrace en fait les 10 années un peu de voyage. Mais j'ai vraiment aussi mis au début tous les balbutiements, tous les obstacles auxquels je me suis confrontée pour pouvoir réaliser ces rêves. Justement, ce n'est pas que la réussite, c'est aussi toutes les fois que je suis tombée, je me suis relevée. Voilà, c'est un livre un peu sans filtre où je raconte toute ma vie, autant de ma vie de femme que de ce que j'ai vécu parce que je voyais pas comment en fait scinder, faire l'un sans l'autre. Donc c'est vraiment un témoignage sous forme de journal sur ces 10 années vraiment et comment j'ai pu en arriver là et tout ce qui s'est passé. Donc il est auto-édité et on peut le commander en ligne. Donc je pense qu'on mettra le lien. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je fais plein de petites vidéos 3 fois par semaine, des petites vidéos de 10 minutes. Où je vais décortiquer, parler un petit peu de tout, des animaux, des différents endroits, des différents parcs sur l'Afrique de l'Est, sur l'Afrique australe. Plein de thèmes différents, plein de conseils différents. Et là, pareil, il suffit de mettre mon nom, mon prénom et puis on la trouve facilement.
Super. Et du coup, tu as un site internet où on peut t'engager
Ouais, j'ai un site internet aussi où je mets des exemples d'itinéraires, je remets un petit peu mon parcours, je mets aussi les liens vers tous les podcasts et vers tout, j'ai fait pas mal de podcasts effectivement, et puis toutes les petites interviews, etc., tous les médias auxquels j'ai pu participer, et puis évidemment mon contact, mon adresse mail, voilà, et mon numéro de téléphone, donc ou WhatsApp ou un email, tout simplement, premier contact, et moi après je vous propose un entretien téléphonique et on débroussaille tout ça ensemble.
On débroussaille. Bon, ben super. Merci Adeline. Et c'est vrai que je vous invite à tous à lire son livre que j'ai commencé et j'en suis déjà plus de la moitié. Mais j'ai, comme je te disais tout à l'heure, j'ai arrêté parce que je voulais avoir justement plein de surprises quand on parlait. C'est un livre qui est super transparent, comme tu dis, sans filtre. Je me suis beaucoup retrouvée dedans et je pense que vous aussi, vous retrouverez beaucoup dans son histoire. Et puis, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Merci beaucoup, Adeline. J'espère qu'on se retrouvera sûrement dans la brousse.
Oui,
et
merci.
Je te dis à tout bientôt.
Merci, Charlotte. Merci à tous pour votre écoute. À très vite.